Alors très rapidement, j'interviens donc au titre de cette Union nationale des sportifs de haut niveau, qui est une organisation qui a vocation à représenter ses sportifs et puis à les protéger. Et donc, quand on va parler de reconversion, je vais simplement vous dire que l'axe de protection, il repose au moins sur trois outils qu'on a mis en place au sein de notre organisation, qui est un organisme de formation, qui amène à déployer des actions, et notamment dans la perspective de la reconversion. Un département qui travaille sur l'évaluation et la prévention des risques, et puis enfin ce centre d'évaluation et de bilan de compétences, qui est vraiment l'outil qui nous amène à accompagner ces sportifs dans ces logiques de reconversion. Alors je voulais simplement vous dire qu'en France il y a très peu d'organismes spécialisés dans ce domaine-là. L'opérateur de compétences, qui est, on va dire, l'outil de financement de ces dispositifs, donc sélectionne une dizaine d'organismes pour une Olympiade pour 4 ans. Et donc on fait partie de ces organisations et donc on travaille avec ces sportifs professionnels dans cette logique de reconversion. Et d'ici très peu de temps, et c'est une nouveauté, avec les sportifs de haut niveau, parce qu'en fait, n'étant pas rattaché à un contrat de travail, ils cotisent pas encore sur ce type d'organisme. Et on a trouvé, on va dire, des modalités de fonctionnement qui nous réjouissent. Voilà. Et donc, quand on parle de reconversion, j'ai essayé d'abord de voir ce que ça veut réellement dire, parce que c'est un mot un peu étrange. Quand on parle de reconversion, c'est que déjà, il y a eu une conversion. Enfin, et donc, je ne m'y retrouve pas tellement, mais enfin, en tous les cas, ça existe. On définit donc cette reconversion comme une adaptation à des conditions nouvelles. Et puis, ça c'était la première version du petit Robert. Et puis, on parle d'affectation, adaptation d'un sujet à un nouvel emploi. Donc, voilà comment c'est défini, on va dire, dans un cadre plutôt général. Par contre, de façon précise, on sait qu'il y a des motifs pour vivre ces temps. Motif, c'est souvent de retrouver un nouvel emploi. Et donc, il faut changer, modifier, remettre en place une nouvelle trajectoire. On peut le faire de façon très volontaire sur la volonté d'exercer un nouveau métier ou un métier qu'on a rêvé, donc de vraiment concrétiser un projet. Donc voilà comment on le place, on va dire, plutôt dans le cadre général. Et donc ça induit en fait deux choses. C'est que à partir du moment où on est dans une stratégie de reconversion, et comme on reprend la définition, bien c'est que la personne est déjà en situation d'emploi ou en recherche d'emploi quand elle est dans sa stratégie de reconversion. Et puis ensuite, c'est qu'il y a vraiment cette envie, cette engagement dans une démarche de changement d'activité. Et donc, si je le rapproche au sport, eh bien, on n'est pas tout à fait dans le même contexte. Et Joël pourra en témoigner, c'est que les sportifs n'ont pas franchement conscience, n'ont pas encore pris la mesure d'exercer ce métier qui est celui de sportif professionnel. Ils ont toujours l'impression d'être en marge. Et quand j'évoque le CV d'un sportif, très souvent, quand on les accompagne à l'emploi, quand ils formalisent leur premier CV, dans l'expérience professionnelle, parfois ils n'en mettent pas, et entre la formation qu'ils ont faite et le moment où ils rentrent sur le marché du travail, il y a un trou énorme. Et souvent, on me dit, est-ce qu'il a un passé carcéral? Parce que concrètement, il y a un vrai trou dans le parcours, parce qu'on considère que le sport, ce n'est pas forcément un métier, alors que c'est devenu réellement une activité professionnelle à part entière. En dehors du fait qu'ils soient rétribués et que contractuellement, ils sont rattachés à des clubs, ce sont des jeunes qui, en dehors de la compétence sportive, de l'agilité technique, ont également à gérer, et Monseigneur Gaubière l'évoquait tout à l'heure, une planification de journée avec des relations avec les médias, avec la maîtrise justement des relations avec ces médias, la gestion de leurs réseaux sociaux, la relation avec leur agent, la relation avec certains partenaires. Bref, ce sont des compétences qu'ils doivent acquérir et qui correspond réellement à un métier. Ensuite, je dirais que la particularité également de ces sportifs, au moment où on évoque cette reconversion, c'est qu'ils ont une vraie difficulté de se projeter en dehors de cette activité ou du secteur d'activité dans lequel ils évoluent. Ils ont mené tout leur parcours dans un environnement très spécifique, voire même particulier, et on va leur demander de se projeter sur un autre endroit, dans une autre activité. Et c'est assez anxiogène, donc ils ont beaucoup de difficultés à se projeter. Alors que c'est une qualité qu'ils ont, que de s'engager dans l'avenir, de définir un objectif de façon précise. Vous pouvez être en face d'un jeune aujourd'hui qui est en capacité de dire qu'en juillet, le 6 juillet 2028, il sera en finale olympique. Donc avec une force de projection dans le temps, avec une capacité d'organiser tout ce timing. Et bizarrement, Le faire dans le cadre d'une reconversion, ça devient compliqué. Et ça le devient parce qu'en fait, comme vous le voyez, et c'est ce que j'ai noté, c'est que la fin d'une carrière, c'est pas la fin d'une étape, c'est souvent la fin tout court. Et on évoque souvent cette période comme une petite mort. Et donc, très concrètement, on est face à un public particulier. Alors, ils le savent. Concrètement, on a une maîtrise parfaite des durées moyennes de carrière. On sait que dans, il y a des certaines disciplines à maturité, on va dire précoce, comme la natation ou la gym, on va avoir des carrières qui, autour de 22-23 ans, vont se terminer. Et puis, il y a des disciplines où on sait que ça va être un peu plus long, donc comme dans le tennis de table. On sait également à quel moment on va faire de la performance, on va fabriquer de la performance. Donc, globalement, on a une bonne vision, de ce temps. Et puis, on maîtrise également, on sait, mais on ne veut pas forcément y penser, mais que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et on va dire que les raisons sont identifiées, hein, et notamment la blessure, la contre-performance, etc. Donc, ils ont une vraie compréhension que cette pratique se fait sur un temps déterminé, mais ils ont du mal à passer le cap. Alors, je parle effectivement de déni, certains ne veulent pas y penser, pour d'autres, c'est plutôt anxiogène, pour d'autres, ils vont la subir, et puis ce qu'on préfère, c'est qu'on puissent être en face de public qui prennent en responsabilité ce passage, parce qu'il est inéluctable. Il est clair qu'à un moment ou à un autre, eh bien, il faut faire ce pas, en sachant qu'on n'est jamais sportif de haut niveau jusqu'au moment de la retraite. Voilà. Et donc, l'accompagnement que nous proposons, il est d'abord lié à cette personnalité. C'est vrai que c'est pas banal que de placer un objectif sportif, d'être mobilisé depuis très jeune sur cette quête que d'être champion du monde, champion olympique ou gagner une coupe du monde, c'est quelque chose de particulier, ça existe. Et puis donc ces personnes, au regard de l'objectif qu'ils se sont fixés, vont s'engager dans un travail intensif. Alors autant physique que psychologique. Sur le plan physique, on a des disciplines, on a 3 séances par jour. À partir de là, il y a des intertemps qui est consacré à la récupération, l'alimentation, la diététique. C'est devenu de la nutrition rattachée à la performance. On se nourrit pour récupérer ou pour fabriquer de l'énergie pour la séance suivante. Les heures de sommeil, les micro-siestes. Bref, la journée est réellement dictée par les préparations, qui sont d'ailleurs plus longues que souvent les compétitions. Et donc, on a des personnes vraiment centrées sur une activité intense avec des enjeux forts pour eux, mais en conséquence des enjeux économiques pour les clubs, etc. Et donc, au bout du bout, ce sont des jeunes qui ont vraiment fabriqué un vrai niveau d'expertise dans leur discipline et qui ont construit une identité, et je vais y revenir tout à l'heure, une identité personnelle qui se confond avec l'identité professionnelle. Et donc, je voulais faire un point également sur ce qu'on pense d'eux. Et parfois, ils pensent eux-mêmes, et là, ça devient un peu plus risqué, mais enfin, en tous les cas, il y a une représentation collective qu'on a des sportifs, des gens invincibles, des gens très forts, des gens infaillibles, et qui ont un rapport à la douleur qui n'existe pas. Vous voyez les sports d'opposition, les sports de contact. D'ailleurs, à ce titre, un boxeur m'avait dit que les coups qu'on reçoit font moins mal quand on est en train de gagner, pour vous dire. Et donc, bref, il y a un côté dieu du stade. Et ce qui amène parfois à s'égocentrer, parce que quand vous faites une performance, vous êtes dans la presse. Quand vous faites une contre-performance, vous êtes dans la presse. Alors que nous, au quotidien, quand on fait bien notre job, on est content de le partager, mais c'est pas forcément dans le journal. Et donc, cette perte de reconversion, notre métier, notre activité, on souhaite réellement l'amener à une autre logique, qui n'est pas celle de la reconversion qui amène à recommencer, mais bien de travailler sur des logiques de transition professionnelle. J'évoquais tout à l'heure l'ensemble des compétences qui sont développées, toutes les aptitudes qui sont développées dans le cadre des pratiques, et bien ce sont des compétences transférables sur d'autres métiers. Alors vous allez m'expliquer, c'est vrai que courir plus vite qu'un autre, ça ne sert pas forcément à grand-chose, si ce n'est peut-être pour récupérer le métro. Mais en dehors de l'activité proprement dite et de l'habileté physique, ce sont des gens qui ont développé une capacité de travail énorme, qui ont une capacité d'adaptation, qui ont une capacité d'intégration dans un groupe. Ils ont une forme de résilience, énorme. Ce sont des gens qui sont en capacité de rebondir, Et donc, globalement, ils ont fabriqué des choses qui sont retransposables sur d'autres activités, d'autres métiers, voire sur d'autres secteurs. Et donc, très clairement, nous, on souhaite réellement les accompagner de façon structurée pour qu'ils puissent passer au mieux cette étape. Et donc, je vais techniquement vous dire comment on fonctionne sur ces bilans ou sur cet accompagnement. Pour nous, il est important qu'on comprenne leur histoire de vie. Le consultant qui reçoit ce sportif va dérouler avec lui chronologiquement l'ensemble de son parcours et on va clairement comprendre que dans son parcours de vie, dès lors qu'il a des petits souvenirs de sa petite enfance jusqu'à l'adolescence, etc., eh bien, il a fonctionné avec des étapes. Alors, l'étape, c'est souvent la petite enfance, l'école, le passage ensuite dans les classes supérieures, mais c'est également le moment où il va sortir du cocon familial et rentrer dans un centre de formation ou dans un pôle. Alors, ça peut être très jeune. Et donc, on voit déjà que même sur un très jeune âge, il y a plusieurs étapes qui structurent son parcours de vie. Et de là, on va faire des focus spécifiques sur ces parcours, sur ces étapes de vie, et on va essayer d'en tirer la substance, à savoir qu'est-ce qui l'a motivé, qui a décidé, à quel moment il va prendre la main, quelle est sa motivation, quelles sont ses blessures. Et à partir de là, donc, on va être en mesure de voir sur l'ensemble des parcours, ben, les modes de fonctionnement, et on va pouvoir en sortir, on va dire, des éléments pour la suite. Et donc, une fois qu'on a mis en place cet état des lieux et qu'on a pu faire émerger l'ensemble des compétences qu'il a fabriquées, eh bien, on va l'autoriser cette fois-ci à être dans cette condition humaine parce qu'on ne va pas lui demander d'être le meilleur du monde dans tout ce qu'il va organiser. C'est simplement s'autoriser à mettre en place un projet qui va lui ressembler. Alors, c'est quelque chose enfin, qui paraît un peu décalé quand je vous dis ça, mais toujours demandé d'être un surhomme. Là, on va simplement lui demander de se faire plaisir et de se reconnaître dans le projet qu'il va formuler. Et donc, on va travailler avec lui pour qu'il puisse comprendre toutes les forces et toutes les faiblesses qu'il a dans toutes ses facettes. Et j'ai donné quelques mots, aidé à identifier, à accepter ses faiblesses, parce qu'un sportif va jamais dire qu'il a des faiblesses. On va lui demander de l'humilité, parce que souvent, quand on place son objectif, on est au-delà. On se surestime et puis admettre qu'on est vulnérable. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que dans ma conclusion, je vous dirais que autant il y a certains projets qui se gagnent, d'autres se reçoivent. Et donc, c'est seulement après toute cette réflexion et ces changements d'état qu'on est en capacité de mettre en place un vrai plan d'action. Alors, je finirai par quelques remarques très simples, hein. C'est que les sportifs qu'on connaît, côtoient, font des choses exceptionnelles, mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont eux-mêmes exceptionnels. Alors quand je dis ils font des choses exceptionnelles, mesurer un jour 2,45 m, c'est le record du monde du saut en hauteur, ou bien 8,95 m au saut en longueur, il y a une impulsion et 8,95 m plus loin, il va atterrir. Ou bien un marathonien qui a plus de 22 à l'heure sur l'ensemble de son parcours. Vous voyez qu'on est vraiment sur des choses, on va dire, extraordinaires. Mais tout ça repose sur, on va dire, des histoires et sur un projet que le sportif souhaite gagner. Et je voulais vous donner un exemple ou deux exemples, hein, si on a 2 minutes. Je pense notamment à l'athlète américaine aux Jeux Olympiques de 1984, qui va être la première à autant performer sur 200, sur 400. Il va donc gagner la médaille d'or sur les deux disciplines, comme le va le faire Marie-Jo Pérec un peu plus tard. Et donc, pour mener cet objectif à bien, elle a fait un gros travail, elle était sur l'Université de Los Angeles. Mais c'est quand même deux disciplines un peu différentes. Et je sais, Monseigneur Goubert, vous avez fait un 4x400 mètres. Vous savez que le 400 mètres, ça fait un peu mal. Et que c'est un peu différent du 200 mètres, qui est une discipline plus explosive et on va dire, plus orientée vers le sprint. Eh bien, en fait, cette fille-là va décider d'être championne olympique au moment où son frère va décéder d'une balle perdue. Ce frère, à Los Angeles, avait le projet d'être champion olympique. Et on voit que, clairement, elle va fabriquer une performance surhumaine parce qu'en fait, elle va s'approprier une histoire et elle va ensuite travailler, s'engager dans une démarche, fixer les objectifs, se réévaluer, assumer les échecs, etc. Et donc, on arrive à ce type de résultat. Je pense également au coureur de 400 mètres à Mexico. Vous savez, en 68, on est dans les problématiques du mouvement Black Panther, où vous vous rappelez qu'il y avait sur le podium du 200 mètres deux Américains avec le gant noir, qui manifestaient. Et donc, ils avaient donc fait le doublé sur le 200 mètres et sur 400 mètres. Lee Evans, qui est engagé en finale et qui est le favori, reçoit un appel téléphonique du mouvement et on lui demande de boycotter sa finale. Puisque donc, ils avaient réussi leur coup sur 200 mètres et pouvoir se faire entendre. Eh bien, ils voulaient donc ils ont demandé à Lee Evans de boycotter sa finale. Et donc il arrive devant le bus des Américains, il dit à son coach, je ne peux pas y aller. Et donc il est surpris. Et le coach va laisser passer le bus. Il dit, écoute, on va discuter tranquillement. Ils sont rentrés dans le bus des Japonais. Il part au stade olympique et lui dit, qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit, écoute, j'ai été contacté par le mouvement. On me demande de boycotter la finale. Et le coach lui dit, écoute, je crois que tu n'as pas bien compris. Il a dit, le mouvement t'a contacté pour que tu fasses une chose exceptionnelle. Et en fait, il va intégrer cette phrase, il va battre le record du monde qui va garder plus de 20 ans. C'est le premier homme à moins de 44 secondes ou 400 mètres. Et vous voyez que clairement, quand on parle de performance exceptionnelle, c'est qu'il y a un contexte et on est en capacité de faire des choses exceptionnelles dans certains contextes. Et donc, c'est une belle histoire parce que quand on a demandé au coach d'où il lui est venu l'idée, il a répondu, je sais pas. Et il dit, mais qu'est-ce que tu as voulu lui dire quand tu lui as dit, fais une chose exceptionnelle? Il dit, je sais pas. Donc, vous voyez, donc, il y a des belles histoires comme ça et il y a des belles performances, mais qui nous rappellent, ben, qu'on s'est inscrit dans un contexte. Et puis ensuite, je voulais vous parler de l'identité, personnelle du sportif et professionnel. Et quand il est dans la rue, on le reconnaît en tant que sportif. Il est reconnu en tant qu'expert dans son domaine. Et donc, il y a une vraie confusion entre le professionnel qu'il est et la personne. Et donc, autant ça peut faire plaisir et pour son ego, c'est flatteur que d'être reconnu et reconnu pour son expertise, autant ça a une limite parce qu'à un temps, ça s'arrête. Et pourtant, je voulais juste vous évoquer le nom de quelqu'un. Il a 67 ans aujourd'hui, ça fait 35 ans qu'il a arrêté l'activité. Et quand je vous dis Michel Platini, ben vous pensez au footballeur. Aujourd'hui, c'est un monsieur de 67 ans et qui est pas footballeur. Et on voit bien que Michel Platini, ben, c'est une personne qui, donc, on a accolé son métier de sportif à sa personne, alors qu'il est une personne à part entière en dehors du football. Et ça me fait penser, alors, parce que c'est flatteur, Michel Platini n'a pas à avoir honte de son parcours, mais je pense à son coéquipier, à Didier Six. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la finale du 8 juillet 82, France-Allemagne à Séville. Donc Didier Six va louper le pénalty. Et un jour, on se retrouve avec parce qu'il a vécu en Moselle. Et donc on était ensemble et quelqu'un l'a reconnu. Il m'a dit, ah, vous êtes Didier Six, c'est celui qui a raté le pénalty. Et il a répondu, merci de me le rappeler. Et en fait, vous voyez, un geste manqué l'amène à être marqué toute sa vie alors qu'il a une belle carrière. Et donc, ce geste raté, je vais enchaîner sur cette obligation de résultat, cette nécessité de perfection. C'est quelque chose qui est vraiment ancré et qui est marqué. Et je pense qu'il faut vraiment pouvoir, comme dans l'accompagnement, autoriser ces sportifs à se dégager de ça, de cette obligation, parce que le geste parfait est une conséquence, pas un objectif, qu'on peut, avec un geste faux, marquer un but. Et ça, je pense que Joël peut me le confirmer. Et puis ensuite, qu'il y a des belles réussites. Ben, qui repose sur de mauvaises raisons ou sur de mauvais moyens. Mauvaises raisons sur l'ego, sur la revanche, sur de mauvaises choses, c'est le dopage. Sur les mauvais moyens, c'est le dopage. Donc la réussite à tout prix, c'est pas forcément une bonne chose parce que le moyen qu'on va utiliser est également quelque chose, un chemin fantastique à emprunter et qui permet également de fabriquer des belles choses et qui dépasse simplement le parcours sportif parce que c'est utilisable encore dans la vie. Et enfin, donner du sens à son parcours, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il a des choses qu'on peut gagner et il y a des choses qu'on reçoit. Et donc, il faut bien faire la part des choses. Et dans le projet de reconversion, plutôt de transition professionnelle, il faut plutôt se mettre dans le deuxième format où quelque part, on va pouvoir se respecter et surtout, bah, laisser les choses se faire avec, on va dire, le respect de sa propre personne, parce que des fois, c'est un peu compliqué pour les sportifs. Voilà. Alors, je voulais juste vous partager que c'est pas facile de vous exprimer tout ça comme ça à travers une visio. C'est toujours plus facile quand on est en face de vous, mais que j'ai eu plaisir à vous raconter tout ça et puis que je suis impatient d'entendre Joël sur la conversion. Voilà, merci à vous.